Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la revue de presse de ce samedi 13 décembre 2025. Vous êtes sur Alternante FM, je suis Léo Chrysostome et voici ce qu'il ne fallait pas manquer cette semaine. Après une longue phase d'instruction et malgré une vive opposition locale, l'État vient d'accorder les permis exclusifs de recherche minière que sollicitait la société Braze Ressources depuis 2023. Pouvait-on lire dans le journal Ouest-France ce jeudi. Le ministère de l'Industrie, chargé des projets miniers, donne le droit à la start-up lorientaise d'explorer 860 km² de sous-sol, à cheval sur l'Ille-et-Vilaine, le Morbihan, le Maine-et-Loire et la Loire-Atlantique. Les permis ont été accordés pour 3 ou 5 ans, mais peuvent être renouvelés pendant une quinzaine d'années. La société dit vouloir réaliser un inventaire du sous-sol pour évaluer la présence de 20 métaux stratégiques et rares. Mais pour les nombreux opposants au projet, c'est bien de l'or que cherche en priorité Braze Ressources. Derrière la start-up se cache Kate Barron, un géologue canadien qui a fait fortune en découvrant une mine d'or en Équateur. L'argument avancé d'aider à l'indépendance de la France et de savoir quel est le contenu de notre sous-sol, ce sont des sornettes, juge Jean Barranger, membre du collectif d'habitants opposé au projet Taranis. Trois députés concernés par Taranis ont prévenu qu'ils engageraient des recours judiciaires, des associations environnementales et des habitants aussi. La tension devrait continuer à monter, alors que certains laissent aussi planer la menace d'un Notre-Dame-des-Landes bis. Affaire à suivre. Mardi, en fin de journée, une cinquantaine de personnes habitant dans le bourg de Saint-Hilaire de Chaléon, en Loire-Atlantique, commune située entre Nantes et Pornic, ont dû être évacuées en urgence, explique le journal 20 minutes. La raison de cette alerte, la coupole du clocher menace de s'effondrer. Un problème structurel a été identifié au niveau de l'église, indique la mairie sur son site internet. Pour accueillir les habitants évacués, un centre d'urgence a été ouvert dans le gymnase de cette commune d'un peu plus de 2300 habitants. Mais la situation risque de durer, car le danger d'effondrement menace toujours. On voit bien que le haut du clocher penche et risque de s'effondrer, confirme la maire dans les colonnes du courrier du Pays de Ré. Mais personne ne peut dire quand et comment il va s'effondrer. Un périmètre de sécurité de 100 mètres a été mis en place autour de l'édifice. Aucun piéton, vélo ni voiture n'a le droit d'y circuler. Des travaux ont pourtant été réalisés récemment sur l'église. Cette année, la mairie a financé avec l'aide de la Fondation Patrimoine 350 000 euros de travaux sur l'édifice. Un chantier qui, néanmoins, ne concernait pas le clocher qui, lui, avait été rénové en 2000. La maire Françoise Relando sait pertinemment que cet épisode sera aussi source de nouvelles dépenses pour sa commune au budget déjà serré. À la lecture du média indépendant Médiacité, on apprend que l'aide alimentaire nantaise fait face à de nombreuses difficultés. La quarantaine d'associations habilitées à la distribution à Nantes ont de plus en plus de mal à s'approvisionner, alors que d'année en année, les files d'attente de l'aide alimentaire s'allongent. Mais entre les dates de péremption, les frigos anti-gaspi, la défiscalisation ou la concurrence, les réseaux de solidarité sont en proie aux difficultés. Pourtant, chaque soir, devant le local de distribution de Tinicmou, sur l'île de Nantes, une longue file se forme. Chacun vient remplir son cabas de fruits et légumes provenant de marchés, supermarchés ou grossistes de l'agglomération nantaise. Une distribution gratuite qui, malheureusement, ne désemplit pas. L'association nantaise a recensé le passage moyen de 90 foyers par jour en 2024 et 587 tonnes de produits sauvés des poubelles. À Nantes, on recense 34 associations locales habilitées aux dons alimentaires par la préfecture qui distribuent des denrées, selon un recoupement de Médiacité. Enfin, on conclut cette revue de presse par une bonne nouvelle. Pour la première fois dans la région des Pays de la Loire, un immeuble a entièrement été isolé avec de la paille, cette année à Cholet. Ouest-France indique que l'intérêt principal de la paille repose dans ses capacités isolantes supérieures aux matériaux habituels. Et Éric Labattu, architecte du projet, l'assure. Le choix d'isoler le bâtiment avec des bottes de paille a permis de réduire son empreinte carbone. Mais pourquoi a-t-il fallu attendre 2025 pour qu'un premier immeuble soit isolé de la sorte dans la région ? Dans une structure en bois comme celle-ci, il faut mettre beaucoup d'isolant pour respecter les normes anti-incendie, répond Nicolas Oudoff, directeur d'Isolant Paille qui a fourni la paille. Il précise « Ce qui change cette fois, c'est l'épaisseur des bottes de paille, seulement 22 cm. une paille aussi petite, nous permet de gagner de l'espace sur l'épaisseur des murs et donc sur la superficie finale des appartements. Sans ça, les projets coûteraient trop cher pour être intéressants aux yeux des bailleurs. En espérant que l'immeuble ne s'envole pas au premier coup de vent, à l'instar du conte Les Trois Petits Cochons. C'est la fin de ce tour de l'actualité hebdomadaire. À samedi prochain pour une nouvelle revue de presse. Et d'ici là, pensez-y, les informations viennent de sources multiples, alors n'oublions pas de les vérifier.